Alors, on va tout de suite partir dans le dossier de cette émission. En fait, on va vous diffuser une partie des interventions qui ont eu lieu une rencontre qui s'est tenue samedi dernier à Montreuil, à la Parole Errante. Ça s'intitulait « Les Roms et qui d'autres ?» et c'était organisé par Cécile Canu, qui est professeure de sociolinguistique à l'Université Paris Descartes, et également Cécile Kovachazi, qui est maître de conférences en littérature comparée à l'Université de Limoges, et également Thomas Lacoste, qui est cinéaste, éditeur, et qui est membre de la bande passante. Donc ça, c'était les trois organisateurs de cet après-midi. Alors, c'est une après-midi donc, qui était construite autour de trois tables rondes, avec des interventions notamment de chercheurs, d'intellectuels divers et variés. L'idée, c'était de réagir face au racisme d'État, face à ce que tout l'emballement médiatique qu'on a entendu depuis cet été autour des Roms. Et malheureusement, ce n'est pas nouveau non plus. Il faudra le rappeler aussi, c'est ce que certains intervenants ont fait d'ailleurs. L'idée n'était pas d'expliquer, de revenir sur qui sont les Roms, etc., mais bien de réagir face à la politique du gouvernement. Donc à travers trois grands thèmes que je vais vous présenter dans quelques instants. Donc on va prendre ces interventions comme des pistes de réflexion face à ces manœuvres puantes, tout en ayant à l'esprit qu'évidemment, il y a aussi des actions concrètes de solidarité aux familles expulsées qui se mènent, qui existent actuellement, et notamment dans le lieu de ce rassemblement, à la Parole Errante en ce moment, à Montreuil, il y a des familles de Roms qui ont été expulsées d'un terrain, qui sont hébergées actuellement à la Parole Errante. Voilà, donc il y a des actions de solidarité qui existent, qui doivent se renforcer et se multiplier. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et d'entendre quelques-unes de ces interventions, quelques extraits de ces interventions, je voudrais quand même rappeler que l'élément déclencheur de tout ce délire autour des Roms, et j'espère qu'on aura le temps dans les oreilles de revenir un petit peu sur tous ces mots qui sont peut-être obscurs pour certains, mais on va le prendre dans la globalité pour l'instant. Tout ce délire-là est quand même lié à des faits de police au départ. Hein. Et d'ailleurs, je regrette pas mal qu'aucun des intervenants de cette journée ne l'ait rappelé. Mais souvenez-vous, au mois de juillet, on a deux meurtres, deux personnes qui sont abattues par la police. Un Français que je mettrais entre guillemets arabe, puisqu'on est sur la politique du bouc émissaire, hein, bien sûr, à Grenoble, en plein quartier de Villeneuve, qui est devenu, les semaines qui ont suivi, un quartier bouclé complètement, avec hélico qui tournait en permanence, etc. Donc tous les habitants recevant punition après qu'on ait tué un suspect d'un braquage, quoi. Ensuite, le deuxième, c'était Luigi, un Français gitan, qui lui a été abattu par un gendarme. Et on apprend il y a seulement quelques jours que il y a de forts soupçons, évidemment, qui portent à croire que rien ne justifiait ce tir, qu'il n'était même pas le conducteur de la voiture, alors que c'est ce qu'on disait, qu'il était passager, qu'il a été tué par un tir latéral, et sans sommation, ce qu'a reconnu le gendarme. A priori, seule sa gueule de métèque pauvre peut justifier sa mort. Dans les deux cas, bien sûr, il y a eu de la colère en réaction, et dans les deux cas, la réponse a été encore plus de matraque. Donc, on a vu à quelle vitesse leur mort a disparu derrière des amalgames complètement absurde, hein, puisque si on parle de Luigi par exemple, qui était français, d'un coup Sarkozy c'est on va expulser tous les Roms, d'accord, donc on ne sait plus de qui on parle, on ne sait plus de quoi on parle, et puis finalement c'est un beau prétexte encore une fois. Et même si les Roms, il faut le rappeler, ce sont des citoyens européens, alors citoyens, la question se pose, hein, apparemment non, mais pas comme les autres, donc puisqu'ils sont expulsables, alors que normalement, puisque la Bulgarie et la Roumanie, puisque c'est l'essentiel des Roms qui vivent en France, viennent de Roumanie, viennent de Roumanie ou de Bulgarie, ce sont des pays qui sont rentrés dans l'Europe et qui normalement bénéficient de la liberté de circulation pour leurs citoyens. Je ne parle même pas de la manière dont peuvent être traités les Roms dans ces pays-là. Ça, on n'en parle pas. Donc voilà, c'est tout un tas de problèmes qui sont soulevés. Voilà. Et évidemment, il y a des faits graves qui sont commis derrière tout ça. Alors, donc, c'est de ça qu'il va être question, notamment l'Europe, puisque cette première table ronde qu'on va entendre aujourd'hui, on entendra des extraits des deux suivantes, les deux mercredis suivants. Donc, on va faire quelques émissions autour de ces interventions. Et donc, cette première table ronde s'intitulait « Penser l'Europe avec les Roms ». Et on va d'abord entendre Étienne Balibar, qui est philosophe.
D'autres, je découvre ou je redécouvre dans cette conjoncture à quel point la question de la persécution des Tziganes, des Roms, des Gitans, et ils portent encore tant d'autres noms qu'il faut tous, bien entendu, convoquer, forment comme l'envers, la face sombre, honteuse, violente, du régime social et politique dans lequel nous vivons. C'est une très longue histoire, puisqu'il s'agit en fait de l'une des persécutions les plus généralisées et les plus anciennes du continent européen. La comparaison avec la question des Juifs a été faite inévitablement. Elle reçoit son sceau tragique, bien entendu, de la façon dont les Juifs et les Tziganes, et d'autres catégories encore, mais enfin eux en particulier, ont été ciblés par le projet d'extermination nazi, avec toutes les précautions qui s'imposent, sans céder, si possible, à la rhétorique, sans confondre des réalités dont chacune a sa propre histoire et son propre sens, il faut quand même s'en souvenir et le dire pour marquer à quel degré de profondeur et encore une fois de gravité cette persécution s'enracine dans notre histoire. Bien entendu, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est autre chose, c'est une manipulation politique, une manipulation politique qui, d'ailleurs, circule de façon stupéfiante, passant d'un pays à l'autre. Alors, nous avons eu les pogroms italiens, hongrois, et maintenant nous avons les expulsions et les déportations mises en œuvre de façon spectaculaire, mais pas complètement visible dans tous leurs détails, car si elles étaient complètement visibles, l'indignation franchirait un seuil qui gênerait le gouvernement, dont le président Sarkozy et son entourage en grande difficulté politique, comme chacun sait, pas la peine de s'étendre longuement là-dessus, ont cru pouvoir faire l'instrument d'une manœuvre politique dans la conjoncture française. S'il n'y avait pas cette longue histoire de persécution par derrière, tout ceci ne se serait pas produit, ne serait même pas venu à l'esprit, bien entendu, de ceux qui l'ont conçu. Et c'est pourquoi il est aussi important de rétablir le contexte et de reconstituer ou de renouer les fils. Ça fait partie des instruments dont nous avons besoin pour résister à cette manœuvre et finalement la faire échouer. Bon. Alors, comme il faut savoir se tenir dans des limites et que je suis sûr que mes collègues qui viennent maintenant, mes collègues ou mes amis ou participants de cette table ronde à des titres divers, de l'intérieur, de l'extérieur, sauront en dire beaucoup plus et beaucoup mieux que moi sur la question, Je me contenterai pour finir de pointer trois problèmes qui me sont apparus. Je me contenterai de les nommer et dont je souhaite modestement qu'ils ne passent pas inaperçus. Le premier, c'est ce que on vient déjà d'évoquer quand on a posé de façon provocatrice, Cécile, vous venez de le faire, non seulement la question de savoir qui sont les Roms, mais même à la limite la question de savoir s'ils existent. On voit bien que nous sommes ici pris dans une double contrainte. D'un côté, nous avons les stigmates, les stéréotypes, les catégorisations. De l'autre, nous avons inévitablement une revendication de solidarité et par conséquent de communauté, au moins en formation, sans laquelle il ne pourrait pas y avoir de résistance ou de mobilisation. Je pense donc qu'il ne suffira pas de dénoncer les stéréotypes ou de remettre en question les mots de la stigmatisation pour résoudre ou commencer à résoudre la question de l'identité à la fois individuelle et collective à laquelle nous nous adressons et qui nous rassemble ici aujourd'hui. Mais bien entendu, ce que je pense aussi, ou du moins ce que je voudrais suggérer, c'est que les Roms, les Tziganes, les Gitans, les Manouches, les gens du voyage, comme on a dit aussi, sont les seuls à pouvoir dire, à pouvoir nous dire, et à pouvoir se dire à eux-mêmes quel genre de peuple, quel genre de communauté, quel genre de nation ils forment au milieu des nations européennes, dans l'un ou l'autre des sens de cette catégorie dont on voit bien aujourd'hui qu'elle évolue et qu'elle ne reste pas figée sur elle-même. Cependant, ils ne le feront pas de façon introvertie et narcissique. Ils le feront en échange avec nous, et c'est pour cette raison que nous sommes là aussi aujourd'hui. La seconde question que je voudrais soulever, c'est celle du double jeu. C'est l'expression qui m'est venue spontanément à l'esprit quand j'ai fait le rapprochement, et je pense que je ne suis pas le seul, entre deux phénomènes bien caractéristiques du processus politique auquel nous assistons aujourd'hui. Il y a le double jeu du gouvernement et de l'administration française, qui est justement un double jeu avec l'identité ou un double jeu avec les mots. Vous vous en êtes rendu compte, on a commencé par désigner les Roms ou les gens du voyage. Et puis ensuite, et donc on a convoqué l'image de cette minorité, de cette nation, de cette race, de cette culture exclue de la normalité ou de la civilisation et constamment persécutée dans l'histoire européenne, parce qu'on en avait besoin pour que les fantasmes qui lui sont associés dans les représentations populaires lèvent à nouveau et puissent être entretenus. Mais dès que le soupçon a été levé, que de cette façon, précisément, se constituait ou se développait en France quelque chose comme un racisme d'État, ah non, pas nous, pas chez nous. Donc on a cessé de parler des Roms et on nous a dit ce sont des Roumains, hein, ou ce sont des Bulgares. Mais on a oublié les Bulgares, enfin, on a surtout parlé des Roumains. Hein. Donc résultat de tout ceci, hein, d'un côté, il faut stigmatiser, et pour cette raison, il faut désigner. De l'autre, il faut obstinément refuser de reconnaître. Et le résultat, bien entendu, particulièrement frappant et même tragique à certains égards, d'ailleurs, ça vient d'être dit bien plus simplement que je ne le fais moi-même par cette dame qui a parlé immédiatement, cette dame de Bulgarie qui a parlé immédiatement avec moi, c'est que ces hommes, ces femmes, ces enfants sont à la fois existants, trop existants d'une certaine façon. Il faut les imposer à notre attention alors qu'ils ne le demandent pas. Et d'un autre côté, ils sont totalement inexistants. Ils sont totalement inexistants, c'est-à-dire qu'ils sont sans nom, comme ils sont sans lieu, et bien entendu, ils sont sans droit. C'est le premier aspect du double jeu. Et le second, c'est le double jeu entre l'État, l'État-nation, la France en particulier, et les institutions européennes. Moi, je suis content, évidemment, comme beaucoup d'entre nous peut-être, quand j'entends à la télévision ou quand je lis dans le journal que le Parlement européen a pris une résolution solennelle pour condamner les aspects racistes, discriminatoires, éventuellement attentatoires au droit européen de la politique française d'expulsion. Mais dans la minute qui suit, quelle hypocrisie, quelle hypocrisie, quelle facilité. Bon. Si bien que maintenant, chacun se renvoie la balle, le gouvernement français nous dit c'est un problème européen, à l'Europe de prendre ses responsabilités, et l'Europe nous dit certains États européens se conduisent très mal, aujourd'hui c'est la France, hier c'était l'Italie, demain éventuellement ça sera la Roumanie ou l'autre. C'est de cette façon que finalement les responsabilités sont diluées et que les citoyens sont mis hors circuit. À nous, citoyens d'Europe, citoyens potentiels d'Europe, de reprendre cette question des deux côtés à la fois, sans nous laisser abuser par cette petite navette parlementaire ou institutionnelle et idéologique en même temps, à nous d'exercer, de revendiquer d'une certaine façon les responsabilités que les États et les politiques européennes se refilent les uns les autres pour refuser, en fait, de regarder les réalités en face, à nous de construire avec nos concitoyens européens, ils le sont incontestablement au sens fort du terme, quelle que soit leur carte d'identité, les voies d'une mobilisation collective sans laquelle, en fait, dans ce continent comme dans chacun des pays qui le constituent, la politique est morte.
Voilà, toujours dans les oreilles loin du front, on poursuit l'écoute des extraits de cette table ronde qui s'est tenue samedi dernier, 11 septembre, à Montreuil, à la Parole Errante. Donc cette table ronde qui s'intitulait « Penser l'Europe avec les Roms ». Et on entend tout de suite Éric Fassin, qui est sociologue et membre de cette France-là.
En exergue, la fin d'un poème célèbre de Baudelaire sur les bohémiens en voyage, qui me paraît résonner avec l'actualité, ces voyageurs pour lesquels est ouvert l'empire familier des ténèbres futures. Cet empire familier qui rappelle de mauvais souvenirs, mais ces ténèbres futures, c'est-à-dire l'annonce de choses qui pourraient être encore pires, me paraît d'actualité. Pourquoi les Roms ? pourquoi aujourd'hui en France s'en prendre aux Roms ? La réponse, il ne faut pas la chercher du côté des Roms. On n'imaginerait pas d'expliquer l'antisémitisme par quelques propriétés des Juifs. De même, ce ne sont pas les musulmans qui sont la clé de l'islamophobie, ni les homosexuels de l'homophobie, ni les femmes de la misogynie. Il ne faut pas prendre l'objet de la phobie pour sa cause. C'est un membre du gouvernement qui nous en livre la logique politique. Hervé Morin, ministre de la Défense, a donné lecture lors de l'université d'été du Nouveau Centre le 29 août d'un texto d'un ami musulman, manifestement unique. Après 50 ans de bons et loyaux services, c'est avec beaucoup d'émotion, mais il est vrai avec un certain soulagement, que les Français d'origine maghrébine ainsi que moi-même sommes très fiers de passer officiellement le relais aux Roms comme bouc émissaire et responsable de tous les maux de la France. J'espère qu'ils seront et resteront dignes de cet héritage prestigieux. Bon courage à eux. Je ne fais que citer quelqu'un citant quelqu'un. Sans doute les Roms n'ont-ils pas attendu l'été 2010 pour occuper en France la place du bouc émissaire. Sans remonter plus loin dans l'histoire, la logique qui se fait entendre aujourd'hui était déjà inscrite dans le discours de ce gouvernement. Ainsi, et je m'étais intéressé à ce moment, le 25 novembre 2007, Brice Hortefeux répondait à une question sur les Roms. Un journaliste de M6 interrogeait celui qui était alors ministre de l'Immigration et de l'Identité nationale sur la politique du chiffre. Avec l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie, soulignait le journaliste, on ne peut plus les expulser. Le prédécesseur d'Éric Besson protestait alors. « Non, non, attendez, moi je ne laisse pas dire les choses comme ça. Je ne peux pas dire qu'on les expulse plus. Je veille à ce que ceux qui ne se conduisent pas bien soient expulsés. » Et il ajoutait « Si vous rêvez d'une société idéale dans laquelle il n'y aurait que des citoyens honnêtes, propres... » Bref, la politique du chiffre supposait d'expulser aussi des citoyens européens, et pour le justifier, il devenait donc nécessaire qu'il ne s'agit pas de citoyens propres et honnêtes. Pour fonder la politique d'immigration, la stigmatisation des Roms justifiait déjà leur expulsion. La nouveauté, c'est plutôt que la logique implicitement inscrite dans l'action gouvernementale, et qui est explicitée ici au détour d'un entretien par le ministre, est devenue, au cours de l'été 2010, le cœur du discours présidentiel et la vitrine de son action. On ne se contente pas de faire, on revendique hautement et on affiche de manière spectaculaire. Dans cette mesure, le texto qui semble avoir circulé d'abord dans la communauté musulmane dit bien la vérité de ce qui vient de se passer. La stigmatisation ne suppose pas un objet fixe. Au contraire, son efficacité passe non seulement par la répétition, on n'en a pas fini avec les musulmans, me semble-t-il, rien ne permet de penser que les débats sur la burqa ne vont pas relancer tout cela. Donc non seulement la répétition, mais aussi la démultiplication, les Roms, les musulmans et combien d'autres. Il y a donc bien une circulation rhétorique. Le projecteur se déplace au gré de l'actualité, des uns aux autres. Je propose d'appeler ça un signifié flottant. Je m'explique. Claude Lévi-Strauss, en 1950, proposait le concept de signifiant flottant. Le mana étudié par Mauss ne serait pas plus mystérieux que certains mots de tous les jours comme truc ou machin. Un même signifiant peut renvoyer à de multiples signifiés au gré des besoins. C'est une simple forme qui est susceptible de se charger de n'importe quel contenu symbolique. Si on inverse l'analyse, on voit bien que les Roms, les musulmans, les jeunes d'origine immigrée, les Noirs, les couples mixtes sont les signifiants variables d'un même signifié flottant. Et c'est le caractère hétéroclite de cette liste qui, me semble-t-il, le montre. Ce que les uns et les autres ont en commun, c'est d'être, si l'on ose dire, disponible pour la rhétorique politique de l'immigration actuelle. La question, c'est donc, quelles sont les propriétés que les Roms partagent avec ces groupes divers ? Il ne s'agit pas, bien sûr, d'expliquer ainsi la phobie, mais d'expliquer la possibilité pour la phobie de les inclure dans sa rhétorique. L'hypothèse que je voudrais proposer ici, pour définir ce signifié flottant, c'est que tous ces groupes stigmatisés ont en commun d'être à la frontière entre eux et nous. Ni dedans, ni dehors, ou les deux à la fois. Fin juillet, quand s'est déclenchée la stigmatisation gouvernementale, on a parlé d'amalgame. On a dit qu'on était en train de confondre les Roms étrangers avec les gens du voyage français. En fait, la logique de l'amalgame n'a rien d'accidentel, c'est au contraire essentiel. Les populations qui posent problème aujourd'hui, dans la logique mise en place par Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire les populations qui sont construite comme problématique, ce ne sont plus tant les étrangers eux-mêmes que celles et ceux qui remettent en cause le partage supposé simple, évident, presque naturel, entre Français et étrangers, entre eux et nous. C'est vrai des musulmans. Songeons à la tribune de Nicolas Sarkozy sur l'islam à l'occasion du référendum suisse sur les minarets dans Le Monde, lorsque, en plein débat sur l'identité nationale, il distinguait ceux qui arrivent, les musulmans, et ceux qui accueillent, dont on devait présumer qu'ils n'étaient pas musulmans puisqu'ils étaient français. L'amalgame est donc essentiel. Il revient à traiter en étrangers des populations constituées pour une part d'étrangers et pour une part de français. Il en va de même pour les Noirs. Certains, venus d'outre-mer, sont français depuis de nombreuses générations, d'autres sont issus de l'immigration subsaharienne plus récente. Et donc la confusion qui permet de stigmatiser ensemble ces deux populations, précisément parce qu'elles ont un pied d'un côté et un pied de l'autre, me paraît essentielle. C'est le même président de la République, je cite souvent cette phrase, qui lors d'un voyage officiel aux États-Unis en 2007, s'émerveillait d'un pays dont les responsables de la politique étrangère ne sont pas, son expression empruntée à Ramayad, canal historique, autrement dit, de souche. Il considérait que Condoleezza Rice appartenait à la même catégorie que Madeleine Albright ou Colin Powell, c'est-à-dire que c'était une immigrée. Pourquoi ? Parce qu'elle était noire. La logique est double. D'un côté, constituer les étrangers en problème ne manque pas d'avoir des effets sur tous ces Français qui, d'une manière ou d'une autre, ont l'air étrangers, par leur origine, leur culture, ou bien tout simplement par leur couleur de peau, leur patronyme. C'est bien pourquoi la fermeture en matière d'immigration ne saurait être compensée par une ouverture en matière de diversité. J'avais essayé de mettre en garde avec la fable du loup de la xénophobie et de l'agneau de la diversité. D'un autre côté, en même temps, cette inévitable confusion entre les frontières externes et internes, cette contagion inéluctable qui mène des premières aux secondes, constitue la frontière en un lieu problématique. Et c'est là, me semble-t-il, ce lieu problématique du signifié flottant. Les couples binationaux en sont un des signifiants privilégiés. Pourquoi sont-ils aujourd'hui l'objet d'un soupçon systématique que révèle l'obsession des mariages blancs et même des mariages gris, comme on va le voir dans le projet de loi en cours ? Précisément parce qu'ils sont, parce qu'ils remettent en cause la frontière entre eux et nous par leur union. C'est pour la même raison que les Roms posent aujourd'hui problème, c'est-à-dire qu'ils sont devenus le signifiant actuel de ce signifié flottant. Ils remettent doublement en cause nos frontières, français ou pas, mais aussi européens ou pas tout à fait. Européens à part entière ou européens entièrement à part, pour reprendre une expression utilisée d'abord dans un autre contexte. Il me semble que c'est là le principe de la logique phobique. La logique phobique, c'est celle qui a permis, par exemple, dans le macartisme des années 50 aux États-Unis, de s'inquiéter non seulement des communistes, mais aussi en même temps des homosexuels et des juifs. Qu'est-ce que les communistes, les homosexuels et les juifs avaient en commun à l'époque ? De même qu'on peut se poser la question aujourd'hui, qu'est-ce que les musulmans, les roms et toutes ces autres catégories ont en commun ? Eh bien, c'est qu'ils sont dedans sans y être tout à fait. Ils sont un peu comme les envahisseurs de la série. Ils sont comme nous, et donc nous risquons de ne pas reconnaître qu'ils ne sont pas comme nous. Et il me semble que cette logique est donc fondamentale, et comme vous avez été très patiente, je vais me taire. Je vous remercie beaucoup.
Bëshel, bëshel, gondoline, ju premande po bistere. Ja jo da kalo qiri kloro, li gjall mange emro li loro. Li gjall, li gjall mro romnjake, ja. Швицате, я ю швицате баре бока, на нея мена не соха, де я не ю да котер мару, я ю бахарис би бахтало. Jaj sër me jek farkere gjava, لبخاریز مردارا و سال می یک بار کنه جو و یا لبخاریز مردارا و یا لا 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 یا 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 یا.
Voilà, toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, c'est Les Oreilles Loin du Front, et on poursuit donc l'écoute d'extraits de cette table ronde Penser l'Europe avec les Roms qui s'est tenue lors de cet après-midi, un rassemblement de prise de parole qui s'intitulait Les Roms et qui d'autre, rassemblement qui s'est tenu samedi dernier à Montreuil. Et donc on va tout de suite écouter l'intervention de Saïmir Millet, qui est membre de l'association La Voix des Roms.
Aïd Moubarak à tous les musulmans pratiquants. D'abord, bonjour à tout le monde. Me présenter. Bon, je m'appelle Saïmir Millet et je suis quelqu'un qui existe. C'est déjà ça de bon. Et j'existe en tant que Rom et j'existe aussi en tant qu'autre chose, que beaucoup d'autres choses, d'où la multiplicité des cassettes et casquettes qui a été soupçonnée par les organisateurs, mais dont on n'a pas vu vraiment le reflet dans la présentation de ce qui me semble être un débat extrêmement intéressant, y compris avec des participants qui ne sont pas spécialistes de la question Rom, mais les spécialistes de la question Rom, on s'en méfie un peu plus que de la peste. Donc, pour compléter ma présentation. Je suis un Rom pas bien dangereux. Bon. Même avec mon albanitude, j'ai un passeport albanais. Et je suis un Rom qui est né dans une république constitutionnellement athée, la République populaire socialiste d'Albanie, qui a grandi et qui a été instruit dans cette même république, et qui, au lycée, c'est-à-dire quand j'avais 16, 15, 16, 17 ans, a vécu et a participé, comme tous les adolescents. Bon, là, j'ai fait ma crise pendant la crise du système et le changement de régime. Donc, ça allait plutôt bien, ça, l'un avait avec l'autre, jusqu'à ce que je découvre la France. Et là, faites attention, ceux qui sont debout, accrochez-vous pour ne pas tomber. J'ai pu venir en France grâce à une bourse catholique pour faire des études, entre autres, d'hébreu biblique. J'ai poursuivi en droit sans jamais passer à travers. J'ai fait aussi des études de la construction européenne, et puis bon, quelques autres perversions universitaires, carte de séjour oblige. Tout en étant Rom et tout en me sentant de moins en moins albanais parce qu'il y avait cette distance et tout en me sentant de plus en plus français. Alors, je ne vais pas m'arrêter là parce que ça ferait trop, j'ai fait ma pub, mais je ne cherche pas d'emploi, je vous rassure. Je ne cherche pas de femme non plus, j'en ai une qui est orthodoxe, elle, et ça ne me dérange pas. Moi, j'ai réussi à rester complètement athée, même si par moments je glisse vers un agnosticisme dont je n'arrive pas à expliquer les raisons. Ça ne m'a jamais dérangé d'aller au Sainte-Marie de la Mer parce qu'on rencontre des cousins plutôt bons, plutôt intéressants, qui connaissent plein de trucs, etc. Donc on s'échange. J'ai appris la vie beaucoup plus avec les échanges interpersonnels qu'à la faculté, enfin aux facultés diverses et variées. Et je suis Rom et je suis européen. C'est là le problème et il est le vôtre. Ce n'est pas le nôtre. Je m'explique. Je ne vous désigne pas individuellement. Vous n'êtes que les victimes d'un processus qui a commencé avec Vercingétorix et qui se poursuit à l'heure, au moment où on parle. qu'est-ce que... Alors, est-ce qu'il est raisonnablement envisageable de poser la question « Qui sont les Roms ?» Ça, bon, pourquoi pas. Mais est-ce que ça existe vraiment ? Alors qu'on est quand même, oh, guère que 12 millions en Europe. 6 fois la population de la Slovénie, 3 à 4 fois la population d'Autriche, avec cette particularité que nous, on est entre l'Espagne et la Russie, entre la Finlande et la Grèce. Et partout où on est chez nous. Bien que ce chez nous soit plus ou moins limité selon les volontés locales et qui changent aussi dans le temps. La France a un passé colonial, elle a un passif colonial qu'elle transforme actuellement en actif de plus en plus. En France, on ne peut pas être français et autre chose, parce que si on est autre chose, une fois qu'on devient français par naturalisation, dont je vous demande de vérifier au petit Robert le premier sens du mot, naturalisation, c'est le processus d'empaillage de peau de bête morte en vue d'une exposition. Donc, quand on devient français et que de naissance on est autre chose, eh bien on est français d'origine, c'est autre chose. Alors moi je suis d'origine et de destination à la fois. Je suis Rome de naissance et je serai mort jusqu'à ma mort Rome. J'étais albanais à ma naissance, je mourrai albanais. Je suis français, je suis devenu français par la force des choses, mais pas par naturalisation, je vous rassure, je ne suis pas un objet d'exposition. Et je mourrai français aussi, et peut-être que d'ici le jour où je meurs, et que j'espère lointain quand même, parce que j'ai quand même beaucoup de choses à faire, j'espère que je serai aussi autre chose. Tout ça à la fois. Nous ne sommes pas d'abord et ensuite. Nous ne sommes pas d'origine et de destination. Nous sommes tout le temps tout. C'est une conception qui est la nôtre. Pourquoi elle est la nôtre ? Et on la retrouve très rarement chez d'autres. À cause de votre état-nation, pardi, à cause de Vercingétorix, à cause de l'école républicaine qui a été créée, entre autres, elle a eu beaucoup de buts nobles, mais elle a eu aussi de buts qui ne l'étaient pas vraiment, comme par exemple l'uniformisation linguistique de la France. On va à l'école pour ne plus parler de ce qu'on commence à appeler des patois, et on entend aussi de la bouche de responsables politiques, de députés et de sénateurs, parler de patois de pays d'origine de certains immigrés qui, si on s'amuse à considérer que le swahili est un patois, franchement, le français à côté, c'est... Bon, c'est pas grave, c'est pas grand-chose. Nous avons cette conception de notre identité et ça nous va très bien. Ça dérange. Avis aux officiers des renseignements généraux qui sont ici de bien faire attention à ce que je vais dire. Si ça dérange, tant pis pour ce que ça dérange. Les autorités, les systèmes successifs en France, depuis des siècles, ont fait des Français des... Je reprends Charles de Gaulle, des veaux. Charles de Gaulle est mort il y a longtemps, le temps passe. Aujourd'hui, on prend les Français pour des... J'ai envie de croire que ce n'est pas le cas. J'ai envie de croire que même les Français victimes de cette idéologie dominante où la nation c'est ça et ça ne peut pas être autre chose, où l'identité c'est ça et elle ne peut pas être multiple, réveillez vos esprits, nous existons, nous sommes des Roms, nous avons une langue, nous avons une histoire, même si elle a été écrite, elle a fait par d'autres et que elle a fait l'objet de manipulations diverses et variées. Comparée à l'histoire de France, elle est particulièrement propre et vierge, je dirais, parce que Vercingétorix, on l'a quand même pioché dans des fables que les grand-mères auvergnates racontaient à leurs enfants pour faire l'unité de la France et de la nation française, une, unique, mais surtout uniforme. Nous, on n'est pas uniforme et on ne le sera jamais. L'Union européenne n'est pas uniforme, au moins dans sa lettre et dans son esprit du début. Si elle devenait uniforme, on a survécu à un génocide, nous autres. On y a survécu en résistant pour nous, en résistant aussi, oui, j'ai encore une minute, donc en résistant aussi pour les pays qui sont les nôtres. En France, il y a eu des groupes de résistants manouches. Ce n'était pas en tant que manouches qu'ils avaient pris les armes, c'était en tant que Français, parce qu'ils étaient à la fois manouches, Français. Comme nous autres, ben on est toujours plus qu'une seule chose. Rendez-vous bien compte, une tuile, il y a un film très beau, je ne citerai pas le titre parce que je ne veux pas faire de pub, un prof qui prend, prof d'architecture, il prend une brique et il demande aux étudiants qu'est-ce que c'est. Il y en a un qui dit une brique, le deuxième il dit une arme. Et le prof il dit non, ça c'est un corps, c'est un corps auquel vous devez donner de l'esprit et de l'âme dans votre travail d'architecte. En tout cas, limitons-nous à une brique, matériel de construction, et une arme. Si une chose, déjà, est deux choses à la fois, un humain qui se limite à une seule chose, ça vaut moins qu'une brique. Alors, cette conception qui est la nôtre, et tout à l'heure, on va parler d'identité nationale comme d'une honte, nous avons réfléchi sur le concept d'identité nationale Rome en 2000. Il y a sur Internet, vous pouvez noter l'adresse Roma avec deux R, R-R-O-M-A, tiré au milieu, Europa avec un A, point E-U. C'est le projet d'un statut cadre des Roms dans l'Union européenne qui part sur cette base-là pour donner des pistes d'action à l'Union européenne pour que l'Union européenne ne se casse pas la gueule d'abord et pour que nous, on soit traités pour ce qu'on est ensuite. Nous ne sommes pas un problème. La question Rome a été posée dans les années 30 en Allemagne. La question tzigane, on avait trouvé des solutions à l'époque. Aujourd'hui, nous tenons à dire nous ne sommes pas une question, nous ne sommes pas un problème. Nous sommes une population qui, par la force de l'histoire qu'on nous a imposée, portons dans notre culture des solutions pour une société meilleure. Ouvrons les yeux sur cette réalité-là et arrêtons de nous poser des questions existentielles ou alors changeons d'objet. Merci à tous de m'avoir écouté. Je sais que je suis un peu dur comme garçon, mais vous comprenez que quand on est en guerre, à la guerre comme à la guerre, et on nous a déclaré une guerre à nous autres. Merci.
Je donne maintenant la parole à Claire Rodier, qui est membre du GISTI, le groupe d'information et de soutien des immigrés, et qui nous parle aujourd'hui à ce titre, avec cette casquette.
Avec cette casquette et peut-être une autre aussi, qui est celle d'un réseau composé d'associations et de chercheurs du nord et du sud de la Méditerranée, on pourrait dire. Il y a une dizaine d'associations européennes, pas seulement Union européenne, et puis quelques-unes du Maghreb et d'Afrique de l'Ouest, hein, qui s'appellent Migre Europe, et qui travaillent sur les conséquences dévastatrices de la gestion par l'Union européenne de la question des frontières, du contrôle de ses frontières. Et mon prédécesseur dit « Nous sommes en guerre », et le premier ouvrage par lequel Migre Europe s'est fait connaître, ou peut-être pas beaucoup connaître, mais ça ne va pas tarder, c'était quand même déjà en 2004, s'appelait « Guerre aux migrants », parce qu'on considère qu'il y a effectivement, à la fois dans les moyens utilisés et dans les discours, beaucoup de choses qui s'apparentent à une déclaration de guerre de l'Europe contre tout ce qu'elle veut écarter de son paysage. Et je crois qu'on est dans le cœur du sujet, parce que ce qui s'est passé cet été est finalement la caricature d'un processus qui se déroule depuis pas mal de temps et qui s'est déroulé en parallèle à un autre processus, qui est celui de l'ouverture progressive des frontières intérieures de l'Union européenne, de la communauté européenne, comme on disait avant, à travers lequel on a vu que les Roms aujourd'hui, mais bien d'autres en même temps ou avant, sont petit à petit marginalisés, enfermés. C'est-à-dire que officiellement, les frontières ou les contrôles aux frontières sont abolis depuis le début des années 80, avec la Convention de Schengen, par exemple, ou les élargissements successifs de la communauté européenne. Mais en même temps, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure que les contrôles aux frontières sont officiellement supprimés, il se construit des kilomètres, des milliers de kilomètres de frontières un peu invisibles qui discriminent, qui marginalisent, qui enferment, qui mettent à l'écart des habitants des territoires de cette Union européenne. Et ça se traduit par une catégorisation des catégories administratives qui se sont mises en place petit à petit. Par exemple, au moment où l'Union européenne a créé la notion de citoyen européen, ça s'est traduit par la mise en exergue de tous ceux qui n'étaient pas citoyens. Donc il y a le citoyen qui circule, hein, le citoyen européen circule. Après, on a des pas tout à fait citoyens, des demi-citoyens, ce sont les ressortissants des États qui adhèrent successivement à l'Union européenne. Ça a été pour la vague de 2004. Et puis, en dernier lieu, les Roumains et les Bulgares qui sont effectivement des demi-citoyens, puisqu'ils n'ont pas le même type de droit à la circulation que les autres citoyens. Après, même dans les citoyens, estampillés citoyens, puisque pour être citoyen européen, il faut être national d'un des États membres de l'Union européenne, il y a ceux qui n'ont pas tout à fait les mêmes droits de circulation, et c'est tout à fait d'actualité, puisque ce qu'on appelle gens du voyage, qui est une catégorie administrative créée par le droit français, n'ont pas la même possibilité de se déplacer d'un endroit à l'autre, en tout cas à l'intérieur du pays dont ils ont la nationalité. Après les citoyens, et puis les demi-citoyens, les faux citoyens, il y a les étrangers. On dit souvent, le droit dit les étrangers non communautaires. Alors les étrangers avec papier, eux, ils ont le droit de circuler dans l'espace européen, d'aller d'un pays à l'autre, mais seulement pendant une durée de 3 mois. Au-delà de 3 mois, il faut qu'ils reviennent dans le pays où ils sont résidents, où ils ont une carte. Donc ça fait une deuxième catégorie. En deçà encore, il y a les étrangers qui demandent l'asile, qui n'ont pas de titre de séjour, qui demandent l'asile. Alors eux, c'est pas qu'ils n'ont pas le droit qu'ils n'ont pas les mêmes droits de circuler que les autres, c'est qu'ils n'ont pas le droit de circuler du tout. C'est-à-dire, quand on est demandeur d'asile dans un pays, et ça peut durer très longtemps, on attend de se voir reconnaître un statut de protection, on est assigné à résidence dans le pays d'Europe où on est arrivé, et en général où on vous a envoyé, parce qu'on ne choisit pas le pays d'accueil. Après, en deçà de ces, en dessous des demandeurs d'asile qui sont assignés à résidence, on pourrait parler des sans-papiers, des exilés, des gens qui n'ont pas d'existence administrative dans les pays de l'Union, et il y en a beaucoup. Il y y en a beaucoup et qui ont pour particularité d'être invisibilisés ou, au contraire, mis en lumière au gré des besoins politiques. Voilà, enfin, là encore, hein, la situation de cet été est une bonne illustration de choses qui se sont passées avec d'autres catégories de population, comme on le dit parfois. Si vous vous souvenez, il y a presque exactement un an, tous les projecteurs étaient à Calais parce qu'il fallait absolument, rappelez-vous les termes, éradiquer la jungle de Calais. Et la jungle de Calais, c'était essentiellement des Afghans. Et alors là, ils n'étaient plus principalement Afghans, demandeurs d'asile, ayant éventuellement besoin de protection, parce qu'on sait en gros en France qu'en Afghanistan, ça craint un peu. On a même des soldats qui se font tuer. Bon, donc ils n'étaient pas principalement ça, mais ils étaient principalement, potentiellement, passeurs. Et délinquants. Donc il fallait éradiquer la jungle de Calais composée de passeurs. Donc on a, le 21 septembre 2009, évacué avec des centaines de policiers et de CRS, à peu près 280 personnes qui ont été, si vous vous en souvenez, dispersées dans toute la France. Et au bout du compte, absolument personne n'a été retenu, n'a été arrêté, poursuivi pour être passeur. Voilà, mais ça, c'était une catégorie dont on avait besoin à ce moment-là, dont le ministre de l'Immigration avait besoin, le gouvernement, et donc on l'a créé. Et puis, on pourrait dire que quand on n'a pas, justement, les catégories qui fait toutes ces petites frontières avec des statuts différents, ben on les invente. Et je dirais que cette année, c'était ça. Hein, cette année, c'était les Roms. Les Roms, en un seul mot, peut-être, effectivement. On invente une catégorie qu'on va, sur laquelle on va mettre le projecteur. Et c'est comme ça que, finalement, dans un espace théorique de libre circulation, on arrive... par soit le droit, soit par la stigmatisation, à créer, comme je le disais, des milliers de frontières. Alors ça peut se passer avec, encore une fois, des nationaux ou des gens dont on ne sait pas bien. Éric Fassin parlait tout à l'heure des gens qui sont noirs. Alors on ne sait pas s'ils sont français ou pas français, donc s'ils ont droit à circuler étranger avec papier ou sans papier. Et pour vérifier, éventuellement, on contrôle. Alors ça, c'est encore une autre forme d'entrave à la liberté de circulation. C'est le fait, parce qu'on est ce qu'on est, d'être sans arrêt soumis à des contrôles d'identité. Et vous vous souvenez peut-être qu'il n'y a pas tellement longtemps, à l'occasion de manifestations qui se passaient à Paris, il était impossible pour certains qui étaient étiquetés comme éventuellement suspects de venir faire le bazar dans les manifestations à Paris, impossible d'accéder aux gares de RER ou aux gares SNCF qui les auraient amenés à Paris. Hein, donc là, c'était l'identité jeune de banlieue qui, à cagoule éventuellement, qui était mise en avant pour empêcher, entraver le droit à la circulation. L'autre volet de ce que je voulais dire, peut-être, c'est sur quoi... comment ça s'articule avec le droit? On a entendu plein de trucs. Alors, il y a eu cette résolution du Parlement européen... à laquelle Étienne Balibard faisait allusion là, le 9 septembre, qui est effectivement très hypocrite. Je ne sais pas si j'aurai le temps de revenir là-dessus, mais en tout cas, elle pointe un certain nombre de violations des droits qui ont été commises par le gouvernement français à l'occasion de ces opérations de démantèlement des camps. Il y a beaucoup de violations de beaucoup de droits, à la fois nationaux, à la fois européens, à la fois internationaux dans ces opérations. Pourquoi ? Parce qu'en principe, il n'y a pas la notion de séjour irrégulier d'un ressortissant européen n'existe pas. Alors on a vu que comme les Roumains et les Bulgares sont des demi-citoyens, donc on va présumer que les Roms sont en séjour irrégulier. Mais c'est une notion qui est en principe strictement encadrée. Et on n'a pas le droit d'éloigner non plus, d'expulser des Européens. Sauf dans quelques circonstances, alors vous en avez peut-être entendu parler, puisque ça a été des arguments qui ont été avancés, mais ça vaut le coup de se plonger un tout petit peu dedans si j'ai encore deux minutes. Une. Ça va être dur. Alors, il y a, d'une part, il faut représenter une menace réelle, actuelle, suffisamment grave, affectant les intérêts fondamentaux de la société. pour pouvoir être expulsé. Et il faut en plus que l'expulsion soit fondée sur le comportement personnel de l'individu. Hein, donc vous voyez comme ça correspond fondamentalement à ce qui s'est passé. Ou alors, il faut que, pour expulser un citoyen européen, il faut qu'il représente une charge déraisonnable pour le système d'assurance sociale du pays où il est installé, ou alors qu'il ait commis des abus de droit tels qu'on peut effectivement déroger à ce principe fondamental qui est celui du droit à circuler, donc d'être dans un autre pays que celui dont on est originaire. L'histoire de la charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale du pays où on est installé, elle est ressortie du chapeau. C'est quelque chose qui a toujours existé dans le droit européen et qui a toujours permis théoriquement de déroger au principe de circulation, en gros d'expulser un Européen, sauf qu'il n'avait quasiment jamais servi jusqu'en 2007-2008, au moment où M. Hortefeux disait « Vous en faites pas, on va trouver les méthodes pour pouvoir, si vous allez pouvoir continuer à expulser les Romains et les Bulgares. » Et c'est d'ailleurs ce qu'il a dit dans une circulaire à ses préfets. En gros, c'était une circulaire qui disait « La Bulgarie et la Roumanie sont entrées dans l'Union européenne, mais vous en faites pas. Voilà, je vous donne les méthodes pour pouvoir continuer à expulser. » Et cette histoire de la charge déraisonnable a été largement utilisée. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que vous nous faites croire par des tricheries que tout ça est légal. Comment on nous le fait croire? On nous a beaucoup parlé, c'est pas des expulsions, c'est des retours volontaires. Hein? Alors j'ai pas le temps de m'étendre là-dessus, mais la notion de retour volontaire a été très très largement utilisée, notamment pour les Roumains depuis quelques années, pour justifier qu'on mette de force des gens dans des cars et qu'on les ramène chez eux. C'est du retour volontaire. Mais comme ça ne suffit pas d'invoquer le retour volontaire, on se prépare à modifier la loi. Donc, vous avez sans doute entendu parler du projet de loi Besson qui va être discuté à la fin du mois. Il a récemment fait l'objet d'amendements du gouvernement, hein, c'est-à-dire que le projet a été déposé au début de l'été devant l'Assemblée nationale, mais opportunément pendant le mois d'août, on a trouvé quelques trucs en plus, beaucoup de trucs en plus d'ailleurs, à mettre dans ce projet de loi, et notamment des dispositions qui, sans citer les Roumains et les Bulgares, rentrent exactement dans le cadre de ce dont on a besoin aujourd'hui. On va par exemple dire qu'on pourra expulser des personnes en application du droit européen qui prévoit l'expulsion en cas d'abus de droit, notion qui n'a quasiment jamais servi, en cas de comportement artificiel adopté dans le seul but d'obtenir le droit de séjourner librement, par exemple le fait de renouveler des séjours d'une durée inférieure à 3 mois lorsque les conditions permettant une durée supérieure ne sont pas réalisées. Ça, c'est pour les gens qui font des allers-retours. Donc on va spécifiquement ajouter dans le projet de loi, enfin dans la future loi, une disposition qui concerne les Roumains et les Bulgares. Il y en a beaucoup d'autres et je ne vais pas m'étendre dessus puisque je crois que j'ai déjà dépassé mon temps, mais on pourra y revenir peut-être. Merci.
Voilà, vous êtes toujours dans les oreilles loin du front sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 et on a donc entendu des extraits de la première table ronde qui s'était tenue à cette après-midi discussion, enfin prise de parole intitulée « Les Roms et qui d'autres ?», une après-midi qui était organisée par Cécile Canu, qui est professeure de sociolinguistique à l'Université Paris-Descartes, Cécile Kovac-Chazy, qui est maître de conférences en littérature comparée à l'Université de Limoges, et également Thomas Lacoste, qui est cinéaste et éditeur et membre de la Bande Passante. Donc ça s'est tenu samedi dernier, le 11 septembre, à Montreuil. Donc c'était la première des extraits de la première table ronde qui s'intitulait « Penser l'Europe avec les Roms ». Et en fait, on vous diffusera mercredi prochain et le suivant des extraits des deux autres tables rondes. Donc la suite la semaine prochaine.